Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Emmanuel Exbraya. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel, vous êtes avec nous pour nous présenter une nouveauté à Aoust-sur-Scie, un lieu qui s'appelle Lumia, avec plusieurs déclinaisons possibles. Vous nous les expliquerez avec donc ce lieu qui permet de s'évader avec une expérience unique, comme vous le précisez, avec des expériences immersives. Donc, vous nous préciserez de quelles sorte. Et donc régulièrement, vous allez avoir cette ouverture, notamment pour ce mois de décembre, avec des grosses journées. Hein. Et pour vous, ce désir de créer ce lieu au sein de Aoust, quelle importance revêt-elle ?
Eh ben, pour nous, c'était hyper important. Ça fait presque 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Oust, pour moi, c'est un endroit où j'ai vécu gamin. J'ai de la famille sur Oust et évidemment, comme beaucoup, j'ai voyagé, j'ai fait des trucs un peu partout. Moi, j'ai un profil d'artiste. Donc, en tant qu'artiste, j'ai travaillé du côté technique et du côté scène aussi. Et c'était important pour moi de voir des choses à différents endroits dans le monde. Et puis, comme beaucoup, à une certaine période, j'ai eu envie de revenir un petit peu aux sources. Donc Oust, ça m'a vraiment parlé. Et on a eu la chance de trouver ce lieu incroyable, un bâtiment, une friche en fait, un ancien bâtiment qui n'était pas utilisé depuis des années, quoi, de 800 mètres carrés, dans lequel on a eu envie de faire un projet un peu fou. Et au début, il était fou et maintenant, il est très, très fou parce que il a évolué en fait dans sa construction. Le projet initial, c'était de faire un studio d'enregistrement audio et vidéo, quelque chose d'un peu pro et un peu technique avec une valeur ajoutée. Généralement, les studios sont soit audio, soit vidéo. Et là, on voulait vraiment arriver à avoir une proposition assez large. Et puis ensuite, avec les possibilités d'espace qu'on a eu dans ce bâtiment, on a commencé à développer le projet vers une option de bar. Et comme on vient des arts numériques, on a fait un bar immersif avec une ambiance complètement dingue, avec des thématiques visuelles qui changent, la vidéo, du mapping partout. Et puis, on a travaillé aussi beaucoup. Moi, je travaille dans des galeries d'art et dans des parcs d'attractions. Donc, l'idée aussi, c'était d'amener ce qu'on appelle des expériences immersives. C'est des jeux, en fait, souvent pour toute la famille. On a des gens qui viennent avec des enfants dès 5 ans. Et donc, l'idée, c'était de dire, on va proposer un projet qui soit plus large que ce qu'on peut trouver d'habitude. C'est à la fois pour des professionnels qui pourront venir trouver un groupe de musique typiquement qui va vouloir enregistrer un album, mais en même temps potentiellement faire un clip ou enregistrer une live session, c'est-à-dire avoir à la fois de l'enregistrement audio mais à la fois de la vidéo, et puis en même temps attirer un public de famille en fait qui pourrait venir au bar, ce qui est pas très courant. Généralement on va pas au bar avec des enfants, et ben là nous notre bar il est fait pour en fait. On peut venir boire quelque chose, on a une licence 4 donc on peut boire de l'alcool, mais on fait très attention aussi aux enfants et aux espaces attribués pour les enfants, avec notamment la proposition d'expérience immersive.
Emmanuel, avant de continuer, je pourrais peut-être vous demander votre expérience aussi dans ce domaine artistique dont vous vous prévalez. Est-ce que ça a permis de nourrir justement cette capacité d'ouvrir ce lieu avec d'autres que vous pourriez nous présenter également ?
Tout à fait. Moi, j'ai 52 ans maintenant. Mon expérience, j'ai commencé à 15 ans, j'étais DJ. J'ai fait 15 ans dans la nuit, donc j'ai beaucoup travaillé dans des clubs, à organiser des événements, etc. Et j'ai bossé dans le spectacle, du coup, dans la technique, pas mal. Et puis après, j'ai commencé à faire des jeux vidéo éducatifs à un moment. J'avais 30 ans, j'ai eu envie de faire d'autres choses et rencontrer d'autres types d'artistes et travailler le jour aussi pour changer. C'était marrant. Et donc j'ai vraiment commencé à travailler là, découvrir les arts numériques. Travailler dans l'espace. Donc moi, mon profil, il est artiste et technicien. Donc, je suis musicien, je fais beaucoup de vidéos. Et puis, je suis auteur d'un bouquin qui s'appelle The Five Tribes, la mémoire de l'homme. Et du coup, voilà, je suis un peu ce qu'on appelle pluridisciplinaire. Je travaille dans des galeries d'art, j'ai fait des installations interactives. Donc, je suis vraiment à cheval, en tout cas dans ma manière de travailler. J'utilise beaucoup des outils technologiques et parfois pas du tout quand je fais de l'écriture, typiquement. Donc, je fais de l'écriture de spectacle, je fais de la mise en scène. Voilà, je suis un peu le mec un peu touche-à-tout. Et après, je travaille avec plein de gens absolument géniaux qui viennent travailler des petits détails hyper importants qui font que les projets sont géniaux à la fin, quoi.
Qui d'autre ?
Alors il y a pas mal de gens qui sont avec moi depuis le début dans la création de ce projet, mais les gens qui restent en permanent, il y a Aurélie qui est ma compagne, qui travaille aussi sur la partie vidéo, qui est aussi une artiste, qui s'occupe aussi de l'accueil, qui fait aussi du bar. Il y a Marion qui est aussi une artiste, qui fait des choses complètement loufoques, donc voilà, qui fait aussi du bar, qui fait des cocktails, etc. Elle adore. Il y a Isabelle aussi qui est là souvent et qui est aussi une artiste en son genre. On adore. Elle vient souvent avec ses enfants d'ailleurs. Voilà, qui fait partie des bénévoles. Et puis voilà. Après, en gros, le noyau dur, on va dire qu'il est là. Ça amène une ambiance un peu particulière. Après, on travaille beaucoup avec les intermittents du spectacle aussi pour les parties studio. Donc, c'est des gens qui viennent, c'est des gens qu'on sélectionne en fait en fonction d'un besoin spécifique, en fonction d'un feeling avec une musique ou avec un type d'image. Donc, ça c'était important de dire que le studio il tourne pas tout seul. Le studio il est là pour faire travailler des gens en local et arrêter d'aller chercher des intermittents à Paris. L'idée c'est d'avoir une structure qui puisse accueillir ces gens dans de bonnes conditions. Et on a aussi l'association qui permet de faire des cachets d'intermittents. C'est une petite parenthèse, mais l'idée c'est aussi l'idée de l'écosystème d'avoir quelque chose qui tourne aussi, qui fasse vivre une dynamique locale. Et puis pour l'équipe, en gros, puis tous les gens avec qui on travaille, évidemment, des artisans, etc. Ouais. Tout ça se construit pas tout seul, même si on fait beaucoup de choses nous-mêmes.
Et donc, cette expérience passée vous a enrichi et nourri de manière à pouvoir proposer un large éventail de propositions sur ce lieu.
En fait, l'idée, c'était que jusqu'à maintenant, j'ai fait ça pour d'autres. J'avais des clients qui venaient voir ces projets, quoi. À un moment, je me suis dit, mais si on pouvait proposer toutes ces choses-là dans un seul lieu, à un seul endroit, plutôt que courir après tout. Après, moi, j'étais aussi fatigué de l'éphémère. J'ai fait beaucoup d'installations événementielles éphémères. Et c'est absolument génial parce qu'il y a une adrénaline qui est ouf à ce moment-là. Mais on n'est jamais dans les détails. Voilà, tout tient par du scotch. Et à un moment, on a envie d'enlever le gaffeur et partir sur autre chose. Et là, c'est ce qu'on a voulu faire. On s'est dit, on prend le temps de faire un lieu où la magie va rester. Plus qu'une semaine et où en plus elle va pouvoir évoluer dans le temps et en plus elle pourra permettre à des gens de venir aussi, d'autres artistes, de venir s'exprimer et faire de ce lieu quelque chose d'évolutif, quoi.
Ce lieu donc de 800 mètres carrés que vous aviez repéré depuis des années, je pense, quel était-il initialement ?
En fait, depuis 15 ans, il n'est pas du tout utilisé. Et dans le temps, c'était, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont fait de l'imprimerie, ils ont fabriqué des sacs. C'était un truc industriel. Le lieu, en fait, apparemment, est industriel depuis, je crois, plus de 200 ou 300 ans. Et l'histoire raconte même que la ville de Oust était l'une des premières villes de France à avoir l'électricité après Paris. Parce qu'en fait, l'industriel de l'époque, qui fonctionnait très bien, utilisait le canal, avait fait construire un canal. Et du coup, toutes les machines étaient hydrauliques uniquement. Et quand l'énergie électrique est arrivée, ils ont installé une c'est un peu hors sujet, mais ils ont installé une machine, comment on appelle ça, une turbine en fait.
Une centrale
électrique, ouais. Oui. Et du coup, cette usine a eu l'électricité. Et du coup, le responsable de l'usine à l'époque a dit à la mairie, je produis plus que ce dont j'ai besoin, je vais en faire profiter la ville, quoi.
Donc un lieu avec un certain cachet.
Il y a un lieu avec un cachet, avec une histoire dans un village qui est pour moi extraordinaire et et voilà, et c'est chouette qu'on soit là, quoi. On est hyper content de pouvoir.
Cette promixité de Valence et puis d'autres de Cray également, ça permet peut-être aussi à un public plus large pour venir sur ce lieu.
Ouais, clairement, c'est en même temps stratégique. Ça n'a pas été beaucoup réfléchi, mais ça c'est bien tombé. On est vraiment dans un triangle Valence-Montélimar-Die. Pour le coup, et donc il n'y a pas de projet vraiment comme ça, ni à Die, ni à Valence, ni à Montélimar. On a un peu des expériences un peu immersives, on a des trucs un peu pour les mômes sur Valence, un peu toujours les mêmes, mais pas plus, et assez formaté, on va dire, formaté, industrialisé, enfin... Pour moi, pas très artisanal en tout cas, avec pas beaucoup de cachet. Mais c'est tout, voilà. Et donc, avoir ce lieu-là, dans ce triangle-là, je pense que c'est un vrai plus pour la région, quoi, pour le territoire.
Alors, il y a cette ouverture qui s'est opérée en septembre. Cela a permis quoi, déjà ?
Alors, c'était le 31 octobre. On a fait plein d'événements, donc la date d'ouverture c'est de la triche parce qu'elle est jamais juste.
Ah.
On a fait des tests déjà cet été, voilà. Il n'y a pas de date d'ouverture officielle parce qu'on a fait plein de tests. Par contre, on a ouvert le bar et les premières expériences immersives la première fois pour le soir d'Halloween. On a un univers qui est tellement halloweenesque que on pouvait pas rater ça. Et donc on a fait une inauguration. Non, pardon, on n'a pas fait d'inauguration, on a fait une ouverture pour Halloween sur la partie bar et expérience. Donc, ça fait un mois, tout juste. Et on a fait hier, pour la petite histoire, on a fait l'inauguration du studio qui n'était pas encore ouvert. Alors qu'on a déjà fait des événements avec le studio, pareil, pour tester en fait. L'idée, c'est aussi de se confronter à un public. Donc, c'est ce qu'on a fait cet été. Se confronter à un public à la fois pour le studio et à la fois pour le bar, pour avoir des premiers retours, pour faire des modifications, pour faire de ce lieu quelque chose qui...
Lumia, donc L-U-M-I-I-A, quelle est la raison de ce nom ?
Alors Lumia, il y a plusieurs choses. Lumia, ça vient d'un festival qu'on a fait il y a 2 ans et demi à Upi, qui s'appelait le Lumia Festival, qui était déjà un festival hors norme dans le sens où l'objectif n'était pas de passer des groupes les uns derrière les autres comme généralement font les festivals. C'était un festival branché art numérique avec déjà des expériences immersives, escape game, etc., escape game géant, avec plein d'expériences et... Un spectacle quand même qui était là invité, qui était un spectacle à thème immersif aussi avec une lumière, avec une mise en scène incroyable. Donc Lumia vient de ce premier festival et pour nous c'était déjà un test en fait pour savoir s'il y avait un public pour ça. Nous on a vécu beaucoup à Londres notamment et donc on arrivait de grandes villes et évidemment on n'a pas le même point de vue. Quand on est dans des grandes villes, on a accès à tout, c'est facile, tout est génial, ok, sauf que dans les faits est-ce que le public des grandes villes qui aiment ça n'existe pas aussi dans des petites villes? C'était ça la question. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait que dans les grandes villes où on est droit à des choses de ce niveau-là? C'est bien qu'il y ait d'autres propositions, qu'il y ait d'autres choses qui existent dans les zones plus rurales, mais c'était intéressant, on trouvait aussi d'amener aussi des arts numériques, d'amener ce genre de choses. Et donc oui, la réponse, elle était en fait avec les différents tests qu'on a fait, on a fait d'autres jeux, on a fait des expériences, on a fait des parcs, on a fait des, voilà, plusieurs trucs depuis 2-3 ans là, pour voir s'il y avait vraiment un public pour ce style de choses original, en tout cas numérique, immersive. Et oui, en fait, les gens adorent ça. En fait, je pense qu'il y avait une attente même de ça. On voit beaucoup de propositions d'événements, de choses qui se font dans la vallée de la Drôme, de Cray à Die. Il y a énormément d'événements. Il y a des choses absolument géniales qui se font ici. Mais il y a un manque énorme pour moi de cette dimension un peu numérique dans laquelle on vit, qu'on le veuille ou non. Et qui permet en termes de créativité d'amener des univers un peu fous en tout cas ça nous permet à nous de faire ça.
Il y a donc plusieurs propositions qu'on peut découvrir sur ce lieu avec des activités insolites comme vous l'indiquez. La première étant Hollywood Super Green, je les énumère, Karaoke Studio, le Quiz Blind and Test Room, Enigmatic Games et puis le Defool Room, avec des thématiques précises autour et pour tout public.
Exactement. En fait, là, on est vraiment dans la partie Lumia expérience. Il faut, je pense, pour que tout le monde puisse bien comprendre, Lumia, c'est un projet complet, en fait. C'est un écosystème, même, on dit. Lumia, il y a trois parties. Il y a donc Lumia Studio, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Il y a Lumia Bar, donc ce bar immersif, dans lequel les enfants sont les bienvenus. Ce qui est assez bizarre, alors qu'on vend de l'alcool, mais évidemment, on fait très attention à ça. Et puis, il y a Lumia expérience. Avec des propositions d'activités interactives et immersives pour toute la famille encore. Et donc, celles que vous avez citées, là, effectivement, certaines sont réservables en ligne. On a une karaoké box, par exemple. Bon, ben, tout le monde est déjà allé dans un karaoké. Il y a le bistrot du coin qui organise le karaoké. Et puis, ben, voilà, on prend un ticket et puis au moment, on va chanter. Nous, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est une box, donc c'est à la japonaise. C'est les Japonais qui ont inventé ce système-là. En fait, c'est une toute petite pièce dans laquelle on peut rentrer jusqu'à 9 personnes. Et en fait, il y a des micros qui sont branchés. Et on est dans un studio parce qu'en fait, ces karaokés sont installés dans le studio le soir. C'est-à-dire qu'en journée, les studios sont des espaces de studio. Sauf que le soir, ça devient autre chose. Et on a l'un de nos studios, qui est une petite salle, qui est le petit studio, et qui du coup sert de karaoké. Le principe, c'est que vous privatisez cet espace, vous le louez pour une heure par exemple, et vous venez avec vos potes, hurlez dans le micro comme vous voulez, la porte est fermée, personne ne peut vous entendre, et vous chantez autant que vous voulez chanter. Il n'y a pas de queue à attendre, de file à attendre après quelqu'un d'autre.
Je me souviens d'une biennale à Venise, où la représentation coréenne proposait un box individuel pour karaoké.
Exactement.
Voilà, c'est un peu le principe. Donc.
Exactement, on dit le Japon souvent, on pense que ça vient du Japon, mais il n'y a pas que le Japon, effectivement.
Il y a donc cet aspect grand public, et puis vous vous adressez donc avec Lumière Studio aux professionnels. Alors, vous allez pouvoir peut-être nous présenter. Et est-ce que, justement, cette proposition répond à une demande locale, ou alors est-ce qu'il y a aussi des personnes au-delà de la Drôme qui seraient intéressées pour venir travailler dans ce studio?
Alors oui, évidemment, c'est pas un projet qui est dédié à être uniquement local, bien que je pense qu'il y a une grosse demande dans la région, notamment par le fait que on n'est pas un studio d'enregistrement classique, on a cette dimension vidéo. Déjà, on a de l'espace. En général, les studios sont assez petits. Nous, on a le grand studio fait 70 mètres carrés. On a encore un petit studio derrière. Donc déjà, ça change beaucoup. On a de la hauteur et donc on fait de la vidéo. Et typiquement, même des groupes qui ont déjà un album qui est déjà enregistré peuvent venir enregistrer une partie vidéo ou pour faire un live session. On fait des music live session régulièrement. Typiquement,
on peut préciser ce qu'est un live session ?
Tout à fait. L'idée, en fait, c'est que le live session a explosé, existe depuis longtemps, mais a explosé à l'époque du Covid, où les groupes ne pouvaient pas jouer sur scène. Et des groupes comme ça ont commencé à jouer chez eux, tout d'abord, puis dans des studios. Et puis, y a pas mal de studios, de radios qui ont récupéré aussi le concept et qui se sont dit, mais en fait, on va faire passer des groupes, ils vont jouer live à la radio, comme vous faites ici. Mais l'idée, c'est d'amener en plus une dimension vidéo. Donc, le projet, c'est le groupe vient, pas nécessairement enregistrer quelque chose de nouveau, mais jouer l'album en cours, comme il pourrait le faire sur une scène de festival. Et là, il est filmé dans une condition de studio. Donc, c'est joué au casque. Souvent c'est écouté au casque aussi. On peut avoir un public dans le studio, mais c'est pas forcé. Nous, on a un écran immense dans le bar, donc comme il est juste à côté, on a des live sessions comme ça qui sont enregistrées dans le studio et le public peut venir voir ce qui se passe et profiter du live en même temps dans le bar. Donc ça, c'est une des particularités qu'on a nous. Donc n'importe quel groupe, qu'ils aient besoin d'enregistrer ou pas, tous les groupes ont besoin de vidéos aujourd'hui, ça c'est certain, plus que jamais. Il n'y a pas une prod aujourd'hui qui signe un artiste sans voir une performance, sans voir ce que ça rend en vidéo ou évidemment sur place, mais c'est pas toujours possible. Donc faire des vidéos de live en studio, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que le groupe a la possibilité de travailler son set d'une manière particulière, de venir en studio habillé, costumé, etc. comme s'il était sur scène, mais sans le stress de la scène, sans les inconvénients techniques aussi de la scène, avec les avantages du studio, mais sans les contraintes vraiment du studio pur, parce qu'on est à cheval entre les deux. Voilà. Donc ça, ça peut intéresser évidemment beaucoup de groupes du coin. Et surtout, on est sur des tarifs beaucoup plus bas que du tarif studio standard, parce que ça prend beaucoup moins de temps. On n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas autant de post-production. Même si c'est des prestations qu'on propose aussi, évidemment, on est aussi un studio d'enregistrement. Mais ces systèmes de live session, ça peut se faire sur une demi-journée avec assez peu de techniciens, avec des gens en vidéo, évidemment, qui travaillent. Mais voilà, enfin, en tout cas, les retours qu'on a sur ces propositions sont très positifs.
Donc un lieu ouvert aux artistes, aux entreprises également, pour pouvoir produire des vidéos institutionnelles. Vous nous expliquerez aussi cette capacité et de cette équipe aussi qui œuvre pour ces propositions. Et puis il y a un aspect créateur contenu, alors ça sera peut-être à expliquer également.
Oui, en fait ce studio, il est comme il fait de la vidéo, par nature, il est pas fait que pour des artistes. Il est fait aussi pour des entreprises qui viennent faire de la vidéo effectivement institutionnelle. On fait du podcast aussi avec des entreprises, des interviews. On fait des modules de formation aussi avec eux. Donc on est dans un registre complètement différent. Ce studio, c'est assez intéressant à voir parce que en général, un studio, il a une âme qui va avec le type de musique qu'il fait et c'est tout. Et nous, on est dans quelque chose de complètement différent. Le studio, il a une âme parce qu'il a, une ambiance particulière, il a été construit, il a une déco particulière. Mais l'âme vient vraiment du fait que c'est des gens très, très différents qui passent ici. On peut imaginer un musicien de reggae, par exemple, qui vient d'enregistrer et 4 heures après, on a un entrepreneur qui vient parler d'un produit qui vient de sortir. Donc, a priori, ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant, pour nous, il y a une espèce de cohérence parce qu'il y a une technique et il y a toujours une espèce de volonté artistique d'aller amener, même dans le gars qui vient vendre, je ne sais pas, il fabrique des machines à laver, je dis n'importe quoi, et ben, on essaie d'amener un petit plus artistique, voilà, se servir de technique, de techno, pour que ça marche et pour que ce soit percutant, etc., pour que l'information passe bien, mais aussi amener du conseil artistique parce que nous, on vient de cette dimension artistique, on n'est pas seulement des techniciens.
Donc un agenda qui se remplit.
Alors l'agenda qui se remplit tout doucement, on vient d'ouvrir et on n'a même pas lancé la communication encore pour le studio. On a un tout petit peu lancé la com pour le bar à l'expérience. Donc on ne met pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. On ne cherche pas à lancer une grosse com pour dire ça y est, on est là. On y va tranquille en fait. Donc l'agenda se remplit, mais tout doucement. Et pour l'instant, ça nous va bien. Voilà, on a quelques réservations sur le printemps, évidemment on en a là assez prochainement, et puis on a des partenariats déjà qui se mettent en place avec le festival Oustok par exemple, donc là on est sur quelque chose d'assez original dans le sens où je parlais un peu des music live session tout à l'heure, bah, c'est exactement ce qu'on fait avec le festival Oustok. Ils viennent une fois par mois. Oustok, c'est donc le festival de Oust qui existe depuis 5 ans. Oustok font 2 festivals par an, ils en ont un au printemps à Cré et un à Oust l'été. Et en fait, la proposition, c'était de dire, ben, en fait, vous connaissez plein de groupes, vous êtes toujours frustré de ne pas pouvoir faire passer tous ces groupes dans vos festivals, évidemment, ça ne dure jamais assez longtemps. Et ben, nous, on a un studio, on vous propose de faire un podcast vidéo une fois par mois. Et donc, on a la 4e vendredi prochain, ce vendredi-là, le 12 décembre. Du coup, Oustok vient avec un invité à chaque fois, un artiste, un groupe. Et ce groupe il est interviewé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Il joue, le groupe joue après. Et tout ça, c'est enregistré, c'est filmé, c'est rediffusé dans le bar en live et encore une fois, c'est streamé. Donc les gens peuvent à distance profiter de ce qui se passe là. Et ça, c'est l'un des exemples, c'est l'un des types de projets, nous, qu'on apporte. Et voilà, ça amène la pluralité des propositions du studio.
Alors, il y a un partenariat important avec vous, c'est le Gang des Artistes. Alors, quel est-il ?
Alors, le Gang des Artistes, c'est une entité importante, je dirais même vitale, dans ce projet Lumia. Je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, Lumia, c'est Lumia Studio, c'est Lumia Bar, c'est Lumia Expérience. Et en fait, tout ça, c'est une société, en fait, donc c'est une activité économique avec des avantages et des inconvénients. Avec des collaborations avec des entreprises, avec des intermittents du spectacle, avec de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort pour pouvoir payer tous ces gens-là. On est dans une activité économique, mais on s'est rendu compte il y a pas mal de temps déjà que ça avait des limites, ça, et que beaucoup de gens aimaient l'idée de pouvoir collaborer sur des projets comme ça de manière bénévole, comme vous le faites ici à la radio. Et on n'avait pas vraiment anticipé ça, il y a, en tout cas avant, il y a 3-4 ans. Et on s'est dit, effectivement, peut-être qu'on pourrait intégrer... voilà, nous, on a fait pas mal de sensibilisation à les métiers des arts numériques, à des technologies. Voilà, on a fait pas mal ça. Et moi, j'aime particulièrement cette idée de transmission, en fait, de tous ces savoirs, toutes ces connaissances, en fait, qu'on accumule avec les années. Et de pouvoir partager, et notamment, on est vraiment à l'ère de la vidéo. Et l'idée, c'était de dire, ben, et si on développer une dimension partage de connaissances. Si on développait la possibilité d'accueillir des gens qui ont envie d'apporter des choses, qui ont des connaissances, et il y a énormément d'artistes et techniciens qui sont venus s'installer dans la région depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ces gens-là ont bossé dans des grosses boîtes, ils ont des compétences incroyables, et ces gens-là ont parfois un peu de temps et l'envie de partager ça. Donc on s'est dit, il faut ouvrir une association, il faut créer une association qui soit en connexion avec les possibilités techniques que offre la structure Lumia. Donc on a créé le gang des artistes.
Lumia, alors sur le site Lumia Studio, il y a ce petit tiret entre Lumi et IA. Est-ce que l'IA a sa place sur ce lieu?
Alors l'IA, c'est un grand sujet, hein, évidemment. Il y a les gens qui sont pour, il y a les gens qui sont contre. Moi, je suis ni pour ni contre, parce qu'il n'y a pas de position à avoir, en fait, pour moi. On a mis tiret IA pour les entreprises parce que, évidemment, on est dans les technologies. Évidemment, on utilise ces technologies d'IA. On fait de la génération d'images, on fait de la vidéo aujourd'hui, on fait du clonage vidéo. Voilà, il y a plein de choses hyper marrantes. Moi, j'ai une position là-dessus. On me demande souvent qu'est-ce que moi j'en pense en tant qu'utilisateur, en fait. Et moi, j'en pense que, comme toute évolution technologique, c'est une histoire d'usage. Et qu'en fait, cette innovation-là, comme quand le web est arrivé, comme quand les applications, les téléphones sont arrivés, quand l'imprimerie est arrivée, quand l'industrialisation est arrivée, à chaque fois, c'est une vague qui met beaucoup de gens au chômage. Quand on a inventé la voiture, tous les mecs qui faisaient du cheval, typiquement, se retrouvent au chômage, quoi. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait. On le sait, c'est cyclique. Et donc, l'IA, c'est une vraie révolution technologique. Ça apporte énormément de choses et ça vole et ça prend énormément de choses. Donc, il n'y a pas de position à avoir, en fait. Ce n'est pas bien ou pas bien. C'est juste que ce sont des outils, en fait, qu'il faut utiliser... ou pas d'ailleurs, mais qu'il faut, pour ceux qui le désirent en tout cas, utiliser avec intelligence. Nous, on est des créatifs, donc on va dire qu'on est dans la partie belle, on va dire, de ce type d'outils. Tout le monde n'est pas dans ces cas-là. Mais en tout cas, on arrive aujourd'hui à créer des choses absolument incroyables que personne n'était capable de faire avant, avec ces outils-là. Donc nous, on a appris à les utiliser. Et globalement, les gens qui avant faisaient de la vidéo, du graphisme, aujourd'hui font de la vidéo, du graphisme avec de l'IA. Donc, ce n'est pas des gens qui se retrouvent au chômage, pas du tout. Et au contraire, on a même créé des nouveaux métiers. On a des gens qui ne viennent pas de ces métiers-là, mais qui avaient un feeling artistique, qui aujourd'hui développent des morceaux de médias, en fait, des contenus en utilisant les IA, parce qu'ils en font leur métier, simplement. Donc oui, c'est des prestations qu'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est spécialisé dans l'IA, parce qu'on a trouvé que c'était important et que ce qu'on pouvait en sortir était vraiment intéressant.
Est-ce que l'IA prend part aussi à l'adresse du public pour ces propositions de Hollywood, Super Green ou le Default Room? Est-ce qu'il y a l'utilisation de l'IA peut-être pour proposer ces animations avec des compositions musicales ou des chansons pour les karaokés, par exemple?
Alors oui et non.
C'était pour savoir si l'IA permettait justement de pouvoir amener une nouvelle dimension, une nouvelle manière d'animer un public.
Alors, l'IA fait plein de choses et l'IA fait ce qu'on en fait, en fait. Hein. L'IA, si on l'utilise pas, il ne se passera rien. Donc, nous, on fait des choix, on utilise l'IA pour effectivement faire de la génération de vidéos, mais pas que. On est quand même un studio de vidéos, donc on produit de la vidéo, l'un n'empêche pas l'autre. C'est plutôt un outil au service de ce qu'on faisait déjà. Et oui, on utilise de l'IA dans les jeux qu'on invente, qu'on produit. Parce que c'est pratique, parce que ça amène du fun, parce qu'on a un personnage qui vient nous parler et qui dit salut Isabelle, joyeux anniversaire, parce que quelque part elle a marqué qu'il y avait une Isabelle qui fêtait son anniversaire aujourd'hui. Et elle va placer ça, l'IA va placer ça au milieu d'un quiz qui n'est pas sur le flyer là, donc vous ne pouvez pas le voir, mais qui est dans la deuxième partie du projet qu'on va ouvrir bientôt. Bref, oui, on utilise de l'IA, on utilise plein d'autres technologies. En fait, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, mais on a des caméras 3D, on a des systèmes avec du laser. Enfin voilà, on travaille dans l'électronique, etc. Donc l'IA est juste une technologie de plus en fait pour nous. C'est pas voilà, il y a rien de révolutionnaire. On en fait quelque chose, mais voilà, c'est une technologie qui nous permet de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant. Mais on n'arrête pas pour autant de faire ce qu'on faisait avant. Et voilà, donc ça c'est pour le oui. Donc on intègre un peu d'IA dans à peu près voilà, tous les jeux qu'on fait maintenant, à différents niveaux, des fois de manière très très simple, des fois de manière plus complexe. Et non, le karaoké par exemple, le karaoké ça marche plus toujours, il n'y a pas besoin de faire de l'IA. Nous on ne fait pas de génération de musique aussi parce qu'on est musicien et parce qu'on n'a pas besoin spécifiquement d'utiliser de la musique. Si on voulait parfois pour faire une bande musicale sur... on cherche une musique libre de droit typiquement pour aller illustrer une vidéo quelque part, pourquoi pas, à ce moment-là on pourrait générer quelque chose parce qu'on n'a pas besoin d'une âme de fou, au contraire on a besoin que le propos soit mis en avant et pas tant la musique. Donc à ce moment-là on pourrait faire ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est utiliser l'IA pour ce pourquoi c'est fait, voilà, pas pour aller remplacer un artiste sur scène. Voilà.
Quand on rentre dans ce lieu, donc je parle du public, qu'est-ce qui frappe immédiatement ?
Le visage des gens, le premier truc que moi je vois, mais moi je suis déjà dedans quand ils arrivent, mais le visage des gens en général, c'est waouh, voilà, parce que on est à la fois dans un bâtiment industriel, donc on est dans un bloc de béton. Ce qui n'est pas le cas du studio qui, lui, évidemment, a été refait bien comme il faut. Mais en tout cas, le bar, on est dans un bloc de béton et dans lequel on a amené du mapping de partout. Il y a de la lumière, il y a des décors, il y a des sculptures. Il y a énormément de choses végétalisées aussi, assez bizarrement. Donc, on est vraiment à cheval. C'est très coloré. Voilà. Il y a un effet couleur, il y a des courbes, beaucoup, on a travaillé beaucoup sur les arrondis, sur les lumières, sur le positionnement des choses. Ça, c'est mon côté design. J'avais envie que ce lieu-là soit très coloré, très beau, très rond, dans un environnement très gris et très cubique. À l'image de ce que j'ai pu faire dans des galeries d'art à une époque, où on est généralement dans des cubes blancs ou des fois dans du béton aussi gris, et d'amener quelque chose, c'est-à-dire on est dans un univers qui est très neutre, volontairement, froid, et tout ce qui est amené est mis en valeur dedans. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, donc j'ai voulu vraiment garder ce côté béton. Et donc ouais, l'effet, il est très coloré, il est... Mais en fait, c'est marrant parce que ça paraît très original aujourd'hui quand les gens arrivent, tous les âges, franchement, tout le monde arrive avec le même visage en disant waouh, qu'est-ce que c'est ça, quoi, où est-ce qu'on est, dans quel univers on est, c'est génial, voilà ce que j'entends tous les jours, quoi, et ça fait un bien fou. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait trouver dans les clubs des années 70 ou début 80. Alors moi, j'allais pas dans les clubs dans les années 70, mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans les films, c'était des dance floors très avec beaucoup de lumière, très colorées, alors pas forcément le même type de déco, mais en tout cas, la lumière, la couleur était quelque chose de vraiment très très présent qu'on trouvait dans les clubs jusqu'à récemment. Aujourd'hui, des clubs, on en a quasi plus. Donc on a plus ce rapport vraiment à la lumière. On va dans un festival et on voit toujours les mêmes scènes avec les mêmes lumières qui font zip zap zou. Des fois c'est beau, des fois ça l'est pas, mais on n'est pas dans la lumière. Et en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la lumière, j'ai travaillé sur de la color thérapie aussi, le rapport entre l'émotion du corps et la lumière. Donc, j'ai vraiment un peu poussé dans mon art, en fait, ces questions-là. Et donc, j'ai voulu ramener, en fait, ce qu'on pouvait trouver dans le temps, dans les clubs. J'ai voulu ramener ça dans ce lieu où il y a beaucoup de projections, où il y a beaucoup de projecteurs sur nous. On est à l'intérieur de la lumière.
Voilà, donc Lumia, bar immersif avec des activités en famille, adultes et team building, et aussi des propositions donc de cocktails avec ou sans alcool pour toute la famille, et des finger food et gourmandise. Ça, c'est des choses préparées par vous?
Ouais, non, on a des tapas, on fait pas nous de la préparation, et puis c'est toute une logistique. On le fera peut-être au premier étage quand on ouvrira. Ce que j'ai pas dit, c'est que pour l'instant le rez-de-chaussée est ouvert, et donc on a 560 m² qui va ouvrir au premier étage. Et parmi les surprises qui vont arriver là-haut, j'ai parlé du quiz tout à l'heure. Parmi les différentes surprises, on a des salles aussi qu'on va louer aussi pour les anniversaires, etc. Donc le lieu, il est vraiment propice à ça. Mais en fait, on ouvre un roller disco, un truc complètement fou qui n'existe pas depuis les années 80. Une piste de roller, en fait, où on vient danser avec des rollers. Donc on va louer des rollers pour les gens qu'on n'ont pas. Au début, cette histoire, c'était une blague de potes qui me demandaient ce que j'allais faire ici. Et en fait, la plupart des temps, les gens me disaient: ah, mais c'est une trop bonne idée, voilà, venir faire du roller dans une salle avec de la musique, avec de la lumière, etc. C'est trop bien. Et du coup, on a dit, on le fait, en fait. On le fait.
Une piste sous quel aspect? Circulaire?
Oui, ou... oui. Alors, c'est un peu ovoïde, quoi, mais oui. Un peu comme à la patinoire, en fait.
Et peut-être une organisation de rollerball à venir?
Alors, rollerball, on n'y a pas pensé encore, mais on pourrait imaginer tout un tas de choses. En fait, c'est un lieu où on vient faire du roller, mais c'est un lieu où il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi des événements, mais du coup, c'est un espace un peu grand. Dans lequel ben il y a du son, du coup on est immergé dans une ambiance et voilà.
C'est un peu un univers de science-fiction.
Alors
il y a cette quête un peu.
Ça pourrait.
En tout cas, il y a une volonté de dépayser.
Complètement. En fait, le mot qui revient souvent par les gens, c'est rétro-futuriste. C'est-à-dire qu'on est dans une ambiance qui est à la fois un peu ancienne. Avec des codes couleurs, avec des mélanges un peu à la néon, un peu comme on trouvait justement dans ces années disco, et en même temps complètement futuriste avec des décors de dinosaures ou de choses qu'on a qu'on a mélangé. Ouais, rétro-futuriste, ouais, je pense que ça reflète bien l'ambiance générale.
Voilà, les ouvertures ont lieu plutôt en fin de semaine, à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Il y aura des précisions en allant sur le site, donc il y en a deux. Celui du lumia.fr pour le public, le grand public. Et là, on peut y découvrir toutes les propositions que vous avez. Et ensuite, il y a aussi ce Lumia Studio au pluriel. Je mettrai les deux sites en lien sur la page de l'émission. Et puis, pour cette fin d'année, il y aura des ouvertures spécifiques.
Oui, en fait, donc on est ouvert nous du jeudi au dimanche, hein, 18h à minuit en gros. Sauf que pour les vacances, en tout cas pour les vacances de Noël, on est ouvert 7/7 parce que comme on l'a dit, on a des activités pour les enfants aussi. Et donc on a décidé d'ouvrir 7/7 pendant toutes les vacances, même le soir de Noël. C'est une petite blague, mais historiquement, moi j'ai travaillé beaucoup dans des clubs où on ouvrait le 24 au soir. Et en fait, on se rendait compte que pas mal de gens venaient parce que soit ils n'ont pas de famille dans le coin, et il y a énormément de gens qui sont arrivés là et qui n'ont pas de famille ici. Soit ils aiment pas leur famille en fait. Ils sont très contents de pouvoir quitter le repas assez rapidement. Et donc voilà, on voulait faire un truc le 24 au soir, et on a évidemment le réveillon. On ouvre, on fait un événement particulier aussi pour le réveillon, qui celui-là sera que sur réservation. Il faudra réserver en ligne, mais en tout cas pour les gens qui sont intéressés, soit pour les vacances scolaires à venir, bah, vous pouvez venir directement 7/7 de 15h à en gros minuit. Allez voir sur le site internet lumia.fr avec 2 i. Pour ceux qui veulent réserver pour le réveillon, n'hésitez pas à nous appeler directement, ou bientôt on aura l'inscription possible, les réservations possibles sur le site.
Est-ce que vous auriez une proposition musicale pour finir cette émission?
Ouais, carrément. Et ben moi, je vais proposer Saturday Night Fever en hommage au futur roller disco qu'on va ouvrir.
Des Bee Gees?
Ouais, des Bee Gees, ouais, carrément.
Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Exbraya, d'être venu sur RDIWA pour nous parler donc de ce lieu, Lumia. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Eh bien, merci, c'était un grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.